Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers amis, eh bien, chers frères, Saint-Luc, nous racontant les événements de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, selon sa coutume, est toujours très précis dans sa narration. Et après avoir nommé ceux qui étaient présents dans le tabernacle, avoir nommé les apôtres eux-mêmes, il ajoute ceci: « I omnes perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus et cum Maria matre Iesu et parentibus eius. » Ceci, les apôtres, persévéraient donc dans la prière, unis aux femmes qui se trouvaient avec eux, et particulièrement Marie, mère de Jésus, et ses parents. Comme il le dira aussi ailleurs, ils étaient environ 120. Je voudrais parler particulièrement, attirer votre attention sur la présence de la très sainte Vierge Marie. Hier, c'était le 13 mai, nous fêtions l'apparition de Notre-Dame à Fatima. Nous avons fait la procession le soir et nous avons consacré le séminaire au cœur immaculé douloureux de Marie pour réaliser les désirs de la très sainte Vierge Marie. Il est dit des apôtres, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et acceperant spiritum sanctum, et acceperant loqui, ils commencèrent à parler. L'esprit de vérité, l'esprit de sainteté dont ils étaient remplis, les poussaient à communiquer cet Esprit Saint qu'ils avaient reçu par la parole. Il n'est pas parlé de la très sainte Vierge Marie. Et pourtant, la Vierge Marie fut au milieu d'eux, avec eux, en cet événement mémorable. Eh bien, n'oublions pas que c'est par la Vierge Marie que les apôtres ont reçu cet esprit de vérité et de sainteté. Oui, Marie fut le canal par lequel le Saint-Esprit descendit sur les apôtres et les disciples de notre Seigneur réunis dans le Cénacle. Les papes l'affirment d'une manière explicite. Parce que Marie fut remplie déjà du Saint-Esprit bien avant les apôtres, bien avant la Pentecôte, le seul fait que l'ange Gabriel, lorsqu'il vint pour lui annoncer la grande nouvelle de sa maternité divine, lui dit « Ave Maria, gratia plena ». Salut Marie, pleine de grâce. Oui, elle est pleine de grâce, c'est-à-dire pleine du Saint-Esprit, remplie déjà du Saint-Esprit. Et il ajoute « Spiritus Sanctus superveniet in te ». L'Esprit Saint va venir en vous et par la vertu de l'Esprit-Saint, vous serez mère de Jésus. La très sainte Vierge a eu sa Pentecôte avant le jour de la Pentecôte. Et elle aussi a parlé. Elle a parlé. À peine avait-elle reçu le Saint-Esprit, ainsi est devenue mère de Jésus, elle s'en fut visitée Élisabeth, sa cousine. Et c'est par son intermédiaire que Saint Jean-Baptiste, lui aussi, a reçu l'Esprit-Saint. Et sa cousine Élisabeth, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste. Ainsi, la Vierge Marie répandait déjà la grâce du Saint-Esprit à ceux qu'elle approchait. Et alors, elle parla. Elle parla et elle nous a laissé ces paroles vibrantes du Magnificat. Oui, c'est l'évangile de Marie, son Magnificat. Dans les quatre premiers versets du Magnificat, Marie, remplie de l'Esprit-Saint, chante la gloire du bon Dieu. Dieu a daigné regarder son humilité. Et parce qu'elle a été humble, elle a été élevée à une grande dignité. Magnificat anima mea, exultavit spiritus meus. Mon esprit exulte de joie. Mon âme chante la gloire du Seigneur. Pendant ces quatre premiers versets, elle rend grâce à Dieu de ce qu'elle a reçu l'Esprit Saint et de ce qu'elle est devenue mère de Jésus. Et puis, pendant les versets qui suivent, on peut dire, les quatre versets qui suivent, Marie, en définitive, nous redonne, nous donne déjà à l'avance ce que notre Seigneur va décrire dans son serment sur la montagne. C'est presque un petit résumé du serment sur la montagne, des béatitudes en particulier. Bienheureux les humbles, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui craignent Dieu, les timentes, les humiles, les esurientes. Elle emploie même le même terme que notre Seigneur. Notre Seigneur a dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Beati qui esuriente, qui esuriente. Esurientes, dit la Vierge Marie. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la sainteté, de la justice. Malheur, par contre, dit la Vierge Marie, à ceux qui sont orgueilleux, à ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, à ceux qui se fient à leur richesse, à ceux qui se fient à leur puissance, les potentes, les divites, les superbies. Voilà ce que la Vierge Marie avertit. Prenez garde, vous, les orgueilleux, prenez garde, vous qui vous confiez dans votre puissance et dans votre argent, qui n'avait pas l'esprit de pauvreté, qui n'avait pas l'esprit d'humilité. Dieu n'est pas avec vous. Et puis, dans les deux derniers versets, la Vierge Marie prophétise, en quelque sorte, « Sushepi d'Israël puerum sum ». Dieu va prendre en main, en quelque sorte, Israël. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Est-ce que Israël n'est pas déjà dans les mains de Dieu par tout l'Ancien Testament? Ah, mais commence le Nouveau Testament. Et Marie aperçoit déjà la fondation de l'Église, à laquelle précisément elle va participer d'une manière efficace à la Pentecôte, en donnant par son canal l'Esprit Saint aux apôtres. Marie prévoit déjà cela. C'est l'Israël nouveau, c'est l'Israël du Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus du Nouveau Testament. Novi et eterni testamenti, hic est calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, voici le sang de la Nouvelle Alliance. Marie voit tout cela, elle voit la fondation de l'Église. Et non seulement Marie nous décrira ainsi, je dirais, son évangile dans son Magnificat, mais elle le réalisera quand elle parle des humbles, de ceux qui sont pauvres, de ceux qui pratiquent l'esprit de pauvreté, de ceux qui pratiquent la crainte de Dieu. Elle le manifestera partout dans sa vie. Bethléem en est le témoignage. Elle se soumettra dans la crainte de Dieu à sa sainte volonté en partant sur l'ordre de Joseph, soit à Bethléem, soit en Égypte,
soit en revenant à Nazareth, Marie craint Dieu et craint l'autorité de ceux qui lui indiquent la volonté de Dieu. C'est une crainte filiale, ce n'est pas une crainte servile. C'est son amour de Dieu qui lui fait craindre tout ce qui pourrait déplaire à Dieu. Et donc elle soumet toute sa vie au bon Dieu. Et Dieu sait si Marie a eu des épreuves, elle les a offertes à Dieu. L'épreuve de Bethléem, l'épreuve de Jésus qui les abandonne et qui demeure dans le temple pendant 3 jours, elle le cherche. Et nos dolentes queribamus te, dans la douleur, nous vous cherchions. Dit la très sainte Vierge à l'enfant Jésus. Et puis elle assistera aussi avec douleur à la mort de Saint Joseph, cet époux qu'elle aimait et auquel elle obéissait fidèlement pendant 30 années. Et enfin, sa plus grande douleur sera de voir mourir son fils. Toutes ces douleurs, elle les a offertes au bon Dieu, dans son humilité, précisément dans son désir de faire la volonté du bon Dieu. Et puis, elle participera à la fondation de l'Église. Elle aura ce souci de l'Église. Elle, qui est remplie de l'esprit de vérité et de sainteté, veut que les apôtres aussi soient remplis de cet esprit de vérité et de sainteté. Et Dieu sait s'ils ont montré qu'ils l'étaient, puisqu'ils ont parlé immédiatement, ils ont converti des milliers d'âmes, ils ont donné leur sang pour la prédication de la vérité. Alors, je conclus par quelques applications pour le temps que nous vivons aujourd'hui. On nous dit, et on nous répète volontiers, ceux qui ne comprennent pas l'attitude que nous avons au cours de ces années, depuis le Concile, là où est le pape, là est l'Église, vous avez tort de vous opposer au Saint-Père, car vous opposant au Saint-Père, ne vous opposez-vous pas à l'Église, ne vous éloignez-vous pas de l'Église. Mais, mes bien chers frères, ne pourrait-on pas dire, avec une vérité encore plus profonde et plus exacte, là où est Marie, là est l'Église. Car c'est par Marie que les apôtres ont été faits fondateurs de l'Église. Et Marie ne se trompe pas, et Marie est infaillible. Marie ne peut pas professer l'erreur. Marie ne peut pas pécher. Elle est immaculée, conçue, sans péché. Elle est sainte, elle est parfaite. Elle est la lumière de vérité. Et c'est ça qu'elle a communiqué aux apôtres. Alors dans la mesure où les apôtres et dans la mesure où Pierre continue à être uni à Marie, dans l'esprit de vérité, dans l'esprit de sainteté, alors oui, oh oui, nous sommes avec les papes, nous sommes avec l'Église, parce qu'elle continue la vérité, elle continue la sainteté. Mais si, d'aventure, par des circonstances invraisemblables, le successeur de Pierre venait à ne plus suivre Marie, à ne plus répandre l'esprit de vérité et de sainteté, que ferions-nous? À qui recourir? Où allons-nous? Eh bien, nous resterons avec Marie, nous l'entourons comme les apôtres l'ont entourée au jour de la Pentecôte, et nous resterons avec elle dans l'esprit de vérité, dans l'esprit de sainteté. Or, mes bien chers frères, vous le savez, c'est un fait historique, ce sont des faits historiques. Marie n'a pas seulement été à la Pentecôte, Elle n'a pas seulement voulu avoir une action sur l'Église pendant les 15 premières années pendant lesquelles elle était encore sur terre après la mort de Jésus. Elle a continué à travers tous les siècles à veiller sur son Église, à veiller sur ses apôtres. Elle est venue maintes et maintes fois rappeler la vérité. Et la dernière fois, Fatima, précisément. Elle a donné un secret qu'elle voulait publier en 1960. Pourquoi les papes ont-ils refusé de publier ce secret? Je ne sais pas si vous avez su que lorsqu'il y a eu cette réunion à Assise, des catholiques fidèles, mais qui ne sont pas de la tradition d'une manière particulière, ont voulu, puisqu'il y avait une réunion, une grande réunion assise, ont voulu que Notre-Dame de Fatima vienne à Assise. Il y a eu un cortège fait par des fidèles italiens venant avec la statue de la Vierge Marie à Assise. Ils ont été refoulés. On ne voulait pas de la Vierge Marie à Assise. Marie a demandé que le pape et tous les évêques du monde consacrent le monde et particulièrement la Russie à son cœur immaculé et au cœur de Jésus et à son cœur immaculé. On ne le fait pas. On refuse de faire ce que Marie demande. Il y a donc une véritable opposition à Marie. Parce que la Vierge Marie n'est pas œcuménique. La Vierge Marie ne connaît que Jésus. Que Jésus et que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, ce qui est le fondement de l'Église, ce qu'est l'Église elle-même. Et c'est pourquoi, lorsqu'on dit « mais vous vous opposez au pape », ce n'est pas vrai. Nous nous opposons au pape dans la mesure où le pape ne se fait plus l'écho du Saint-Esprit dans la vérité, dans la sainteté. Mais nous ne sommes pas contre le pape successeur de Pierre lorsqu'il se présente vraiment comme successeur de Pierre, fidèle à sa fonction. Voilà ce que nous devons répondre. Demandons donc à la Vierge Marie de rester fidèle, de lui rester fidèle. C'est par sa protection, c'est par la dévotion à Marie que nous demeurerons dans la foi et dans l'Église catholique. Marie est mère de l'Église catholique. Elle n'est pas mère d'une Église qui réunirait toutes les religions. Elle est mère de l'Église catholique, comme l'a dit très bien hier son Excellence Monseigneur Titienne Malraux. Oui, elle est mère de l'unique Église catholique, l'unique Église divine. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de rester fidèle, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les épreuves. Supplions la Vierge Marie d'intervenir auprès de ceux qui sont responsables de l'Église, auprès du pape, auprès des évêques, pour qu'ils reviennent à la dévotion à la Vierge Marie elle-même, et qu'ils demeurent dans cet esprit qu'ils ont reçu au jour de la Pentecôte, cet esprit de vérité et de sainteté, l'esprit de foi. Voyez-vous un exemple encore récent qui nous fait vraiment douter d'un retour prochain à la tradition, par ceux qui ont l'autorité à Rome actuellement. Vous savez que dernièrement, au début du mois de mars, a paru un décret à Rome qui inaugure une nouvelle profession de foi. Dans cette nouvelle profession de foi, qui remplace en quelque sorte le serment antimoderniste de Saint Pie X, il y a le credo. Pas de problème, le credo est celui de toujours. aucune hésitation à signer cette profession de foi qu'est le credo. Et puis trois articles. Les deux premiers sont parfaitement conformes à la foi traditionnelle. Ils ne font que dire que nous sommes unis à toute la vérité qui a été proclamée par les papes au cours des conciles dogmatiques anciens. Mais le troisième alinéa, qui est expliqué dans le préambule de cette profession de foi, demande à ceux qui signent d'être en accord avec ce que le magistère de l'Église d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les évêques dispersés à travers le monde et unis au pape, professent dans leur foi. Et ils disent parfaitement dans le préambule, c'est afin que tout le monde accepte ce qui a été dit et ce qui a été fait pendant le concile et après le concile. Voilà. Alors, à une profession de foi qui aurait été très normale jusqu'à ce dernier alinéa, on ajoute un alinéa qui nous met dans l'obligation d'accepter le concile et les conséquences du concile qui sont contraires à ce qu'ils affirment dans les alinéas précédents. Lorsqu'ils disent qu'il faut adhérer à la doctrine traditionnelle de l'Église. Et c'est précisément cette profession de foi qu'on va faire signer à tous ceux qui se sont soumis de nouveau à l'autorité romaine, évidemment, puisque cette profession de foi est destinée à être signée par tous ceux qui auront une charge quelconque et tous ceux qui vont recevoir les ordres, n'est-ce pas, qui vont entrer dans les ordres et qui vont recevoir les ordinations, vont devoir signer cette formule. C'est une manière, par conséquent, d'exiger désormais de tous ceux qui se sont unis de nouveau aux autorités romaines, en tout point, de se soumettre au concile et aux conséquences du concile. Par conséquent, nous voyons là la volonté de ceux qui actuellement ont l'autorité dans l'Église de nous soumettre à cet esprit du concile qui est un esprit moderniste, un esprit libéral, n'est-ce pas, qui a détruit l'Église et qui continue à détruire l'Église. Cela, nous ne pouvons pas l'admettre. Alors, nous n'acceptons pas qu'on nous dise contre le pape. Nous ne sommes pas contre le pape comme pape, mais nous sommes contre le pape qui nous enseigne des choses qui ont été condamnées par ses prédécesseurs. Ou bien nous sommes avec ses prédécesseurs qui ont proclamé la vérité de toujours, qui sont en concordance avec l'Église depuis les apôtres jusqu'au pape Pie XII, n'est-ce pas ? Ou bien nous sommes avec le Concile et nous sommes contre les prédécesseurs des papes actuels. Il faut choisir. Il y a un choix à faire. Il est évident que la tradition se trouve avec les presque 250 papes qui ont précédé le pape Jean XXIII et le Concile de Vatican II. Enfin, c'est clair. Ou alors l'Église s'est toujours trompée. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il faut être clair, ferme, décidé et ne pas hésiter. Nous voulons être avec la très sainte Vierge Marie. Nous voulons être à la Pentecôte, avec les apôtres, avec la Vierge Marie, dans l'esprit de vérité et dans l'esprit de sainteté, qui est l'esprit de l'Église. Et nous ne voulons pas en changer. Quelles que soient les autorités qui veulent nous faire changer de cet esprit, nous le refusons. Nous voulons demeurer catholiques. Nous ne voulons pas devenir libéraux, ni modernistes, ni protestants. Et la Vierge Marie nous y aidera, parce que la Vierge Marie est allergique à l'erreur. Oui. Elle a une allergie profonde, profonde. Allergie à l'erreur, allergie au péché. Elle ne peut pas sentir l'erreur. Elle est la vérité. Elle est contre l'hérésie. Elle est contre ce qui s'oppose à la vérité. Par nature, par nature. Elle est contre tout ce qui s'oppose à la sainteté. Contre tout péché, quel qu'il soit, même le moindre péché véniel, le moindre péché de négligence. Elle est allergique. Parce qu'elle veut demeurer sainte. Elle veut demeurer dans la vérité. Demandons-lui qu'elle nous communique cette allergie. Le père Garrigou-Lagrange la nomme Notre-Dame de l'horreur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit Notre-Dame de l'horreur, oui, parce que la Vierge Marie a horreur de l'erreur et horreur du péché. C'est dans sa nature. Elle ne peut pas sentir l'erreur, elle ne peut pas sentir le péché. Parce que l'erreur et le péché, c'est le démon. C'est le démon. C'est lui qui a introduit ça dans le monde. Alors elle est allergique au démon. Vous savez bien qu'elle a été créée pour écraser la tête du serpent, pour réduire à néant Satan et tous les suppôts de Satan. Alors unissons-nous à la Vierge Marie, demeurons bien unis à elle, et elle nous préservera et de l'erreur et du péché, et elle nous maintiendra dans la vérité et dans la sainteté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, je pense qu'il est inutile d'insister auprès de vous pour vous montrer que cette fête du Christ roi est au cœur même du combat que nous menons. Si nous avons pris la décision de mener ce combat et de résister à toutes les pressions qui sont faites à l'intérieur même de l'Église pour nous détourner de ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il nous a semblé indispensable pour défendre notre foi de mettre en pratique le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'est-ce pas là même l'objet même de notre foi, de faire régner notre Seigneur Jésus-Christ sur nous, sur nos familles, dans nos cités? Ou portet illum regnare, dit saint Paul. Il faut qu'il règne, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Et pourquoi le pape Pie XI a-t-il jugé bon d'ajouter au calendrier liturgique une fête particulière pour le Christ roi? Était-ce vraiment nécessaire? Est-ce que la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas suffisamment signifiée dans toutes les fêtes de l'année liturgique? En effet, si l'on lit les textes liturgiques de la fête de la Nativité, de la fête de l'Épiphanie, des grandes cérémonies de la Semaine Sainte, à plus forte raison de la fête de Pâques et de la fête de l'Ascension, la royauté de notre Seigneur est constamment affirmée. Ces fêtes ne font que manifester le règne de notre Seigneur Jésus-Christ et son royaume. Alors pourquoi ajouter cette fête du Christ roi? Eh bien, c'est parce que les hommes ont voulu détruire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Après que, pendant de nombreux siècles, les princes, les chefs d'État ont reconnu la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Des disciples de Satan, celui qui poursuit de sa haine
notre Seigneur Jésus-Christ, ont résolu d'en finir avec la chrétienté, avec l'ordre chrétien, avec le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur la société. Et ils ont fomenté des troubles jusqu'au moment où ils ont pu détruire, en effet, ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur les sociétés. Et ils espéraient bien par là ruiner l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit le pape Léon XIII dans son encyclique Humanum Genus à propos des francs-maçons. Il dit « Leur but principal, c'est de détruire toutes les institutions chrétiennes. » Toutes les institutions chrétiennes. Voilà leur but. Et ils ne pouvaient pas y arriver tant que la société était chrétienne, tant que les princes et les gouvernants étaient chrétiens. Il leur a fallu donc détruire ces gouvernements, détruire ceux qui défendaient la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement ils ont eu pour dessein de détruire les institutions chrétiennes, mais ils ont voulu par là détruire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans les âmes et créer ce climat d'apostasie générale. Le fait que les institutions ne sont plus chrétiennes, le fait que notre Seigneur Jésus-Christ ne règne plus dans les institutions, crée nécessairement un climat d'apostasie, un climat d'athéisme. Et ce climat d'athéisme atteint alors les familles par l'enseignement, par tous les moyens puissants que l'État a à sa disposition pour ruiner la foi dans les familles chrétiennes. Et c'est ainsi qu'on a vu l'apostasie s'étendre petit à petit dans la société. Et si les familles deviennent elles-mêmes apostates, si dans les familles ne règne plus notre Seigneur Jésus-Christ, sa loi et sa grâce, alors les vocations aussi disparaissent. Et c'est bien ce qu'ils espéraient. Ils espéraient atteindre l'Église par l'intermédiaire des familles chrétiennes. Et atteindre ainsi les séminaires, les noviciats, les congrégations religieuses. Et hélas, ils y sont arrivés. Et maintenant, nous pourrions dire en vérité que les autorités de l'Église leur prêtent main et les aident dans cette apostasie par l'affirmation de cette liberté religieuse. S'il y a la liberté religieuse, il n'est plus absolument nécessaire que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur les âmes, sur les sociétés. C'est là une chose absolument incroyable, mais vraie. Non seulement il n'est pas opportun, et il n'est pas peut-être possible, comme ils le disent, comme l'ont toujours dit les libéraux, que notre Seigneur Jésus-Christ règne encore sur la société. C'était possible au Moyen-Âge, ce n'est plus possible maintenant. Non, ce n'est pas suffisant. Désormais, on admet comme principe que notre Seigneur ne doit pas régner sur la société. Ce serait contraire à la dignité humaine, la dignité humaine qui veut que chaque homme ait la religion de sa conscience. Et par conséquent, imposer dans la société le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, ce serait violer la conscience et la liberté, et par conséquent la dignité humaine. Et c'est pourquoi il faut que les États soient laïcs, que les États n'aient plus de religion, n'aient pas de religion. C'est ce qu'affirment les autorités de l'Église. Encore le pape à Strasbourg, dernièrement, a affirmé publiquement, il faut que les États soient neutres, n'aient pas de religion. Une chose inouïe, inouïe. Si nos ancêtres entendaient des choses semblables, ils en seraient épouvantés, stupéfaits. Mais de nos jours, on est tellement habitué à cette apostasie générale que l'on ne réagit même plus. C'est pourquoi cette fête du Christ roi est plus utile que jamais. Nous chantions hier dans l'Épître, n'est-ce pas ? Celestat turba clamitat, Christum regnare nolumus. La foule impie crie, nous ne voulons pas que le Christ règne sur nous. Te nos oventes, regem supremum dicimus. Nous, au contraire, heureux dans nos cœurs de pouvoir dire que vous êtes le Seigneur, le Roi de toutes choses. Oui, nous opposons à ce cri de cette foule impie qui dit « Nous ne voulons pas que le Christ règne sur nous », nous disons « Nous voulons que notre Seigneur règne parce qu'il est le Roi de toutes choses. Omnium regem summum, le Roi suprême de toutes choses. » Nous le proclamons et nous voulons le proclamer, non seulement dans pour nous personnellement, pour que Jésus règne dans nos âmes, par sa loi, par sa grâce, mais nous voulons qu'il règne aussi dans nos familles, dans les familles chrétiennes et dans la société. Ce qui est à la racine, voyez-vous, de cette apostasie, c'est la négation du péché originel. Car si notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre et veut régner dans toutes les âmes, dans toutes les familles, dans toutes les cités, c'est précisément pour faire disparaître et le péché originel, et toutes ces conséquences abominables, qui sont et qui conduisent à l'enfer, qui conduisent à la mort éternelle. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Si on nie le péché originel, notre Seigneur n'est plus nécessaire. Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi vient-il? Il vient troubler nos familles, il vient troubler l'ordre de la liberté humaine. Mais si nous croyons qu'il y a eu vraiment un péché originel dont tous les hommes sont atteints avec toutes les conséquences de ce péché originel et que seul notre Seigneur Jésus-Christ est capable de nous guérir et de nous apporter la vie et de nous purifier dans son sang et de nous donner sa grâce et de nous donner sa loi, alors nous nous tournons vers notre Sauveur, vers notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit notre roi, que sa loi règne partout, que sa grâce règne dans toutes les âmes. Voilà ce que nous disons, voilà ce que nous pensons. On ne croit plus au péché originel. On nie le péché originel. Les hommes sont libres. Les hommes ne sont pas mauvais. Les hommes ne naissent pas mauvais, ne naissent pas sous l'influence de Satan. Ce n'est pas vrai. Les hommes sont bons. Ce qu'il désire, c'est bien. Chacun peut désirer ce qu'il veut, selon sa liberté, selon sa conscience. Or, nous disions aussi, dans les antiennes ce matin, « Regnum qui non te servieri peribit. » Le royaume qui ne vous sert pas au Seigneur périra. Et c'est vrai, tous ceux qui n'ont pas notre Seigneur Jésus-Christ dans leur loi, dans leur législation, et qui n'ont pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vivent dans le désordre complet et sont atteints par toutes les suites du péché originel, qui corrompent les sociétés, qui corrompent les âmes. Alors que devons-nous faire, mes bien chers frères, devant cette situation? Désirer, bien sûr, le règne de notre Seigneur, prier de tout notre cœur, toute notre âme, aujourd'hui particulièrement, pour demander à notre Seigneur de régner, qu'il nous aide, qu'il vienne à notre secours. Dieu sait s'il nous a donné tous les moyens pour nous sauver. Mais devant cette situation qui apparemment est insoluble, que pouvons-nous faire? Eh bien, nous devons faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que nous fassions, c'est-à-dire nous sanctifier, ressusciter la grâce que nous avons reçue au jour de notre baptême, pour effacer le péché originel et pour en guérir toutes les suites. Mais nous savons très bien que ces suites du péché originel, nous les avons encore, nous les portons avec nous, et que nous devons constamment lutter par la grâce de notre Seigneur, par la prière, par la réception digne et fréquente des sacrements, par l'assistance à la Sainte Messe, à la vraie messe. Nous savons que c'est ainsi que nos âmes se purifieront, que nos âmes se sanctifieront et que nos âmes feront régner en elles la loi et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne suffit pas de le faire pour nous. Nous avons des fonctions. Nous avons tous une vocation ici-bas. Nous ne vivons pas seuls, nous ne vivons pas isolés. Et par conséquent, nous avons le devoir de faire régner notre Seigneur partout dans nos fonctions, et pas seulement dans nos familles. Le règne de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un règne qui doit se limiter à la famille, et que dès que l'on sort de la maison familiale, il n'y a plus de place pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne regarde pas notre Seigneur. Ce que nous faisons dans notre profession, ce que nous faisons dans la cité, en dehors de notre famille, notre Seigneur n'a plus rien à y voir. C'est faux. C'est faux. Nous devons être soumis à notre Seigneur toujours, en tout ce que nous faisons, dans tous nos actes. Et par conséquent, dans les actes de notre profession aussi. Et par conséquent, dans les actes que nous avons à accomplir et qui regardent le bien de notre commune, le bien de notre village, le bien de notre cité, le bien de notre État. Il est temps, mes bien chers frères, il est temps, plus que temps, que les chrétiens, et particulièrement les chrétiens traditionalistes, si on peut les appeler ainsi, c'est-à-dire les vrais chrétiens, les vrais catholiques, il est temps qu'ils se rendent compte de la situation qui existe autour d'eux, qui est en train de se dégrader de mois en mois, d'année en année. Nos pays n'ont pas perdu toute foi catholique. Il y a encore des gens qui croient, des gens qui ont la foi. Il faudrait les réunir, il faudrait les réveiller. Et il faudrait que parmi nous, parmi ceux qui ont des convictions profondes, catholiques, qu'ils prennent des responsabilités. On est stupéfait de voir que des pays catholiques, disons comme le Valais, comme tous les pays catholiques de la Suisse, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Irlande, comme tous ces pays catholiques qui sont à 80%, 85% catholiques, sont dirigés par des francs-maçons, sont dirigés par des ennemis de l'Église. Comment est-ce possible? Comment ces gens-là ont-ils pu arriver à dominer des pays à grande majorité catholique? Des gens qui sont anti-chrétiens, des gens qui veulent détruire la famille chrétienne, qui introduisent toutes les lois qui démolissent la famille chrétienne, qui introduisent des lois qui démolissent l'enseignement chrétien, démolissent les écoles chrétiennes, qui introduisent de toutes ces initiatives abominables, n'est-ce pas, que nous voyons comme ces discothèques qui se multiplient partout, maintenant dans tous les villages, qui introduisent par conséquent dans la législation l'avortement, la contraception, qui supportent la drogue, qui ne poursuivent pas la pornographie, qui accepte ces films abominables contre notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà des petits groupes, des groupes de gens qui sont contre notre Seigneur Jésus-Christ et qui dominent des nations chrétiennes. Est-ce possible ça? Comment expliquer ça? Comment expliquer que dans un pays, il y a 80-85% de catholiques, ce soit des gens contre l'Église catholique, qui sont contre notre Seigneur, qui dominent et qui dirigent tout le monde. Je pense que c'est parce que les catholiques s'imaginent qu'ils ne doivent pas entrer dans les fonctions publiques. Ils ont peur de s'immiscer dans les fonctions publiques. Sans doute, ils ont raison dans la mesure où ils devraient participer à des choses qui sont mauvaises et contribuer à des choses qui sont mauvaises. Mais s'ils le font, au contraire, pour empêcher les choses mauvaises de se réaliser, ils doivent se manifester, ils doivent prendre des responsabilités pour le bien des âmes, pour faire régner notre Seigneur Jésus-Christ dans la législation. Mais sans qu'il y a là une déficience et peut-être une incompréhension du devoir des catholiques, catholiques fidèles. Il faudrait que dans des villages qui sont à 80% catholiques encore et qui ont encore des convictions, 90%, ce soit de bons catholiques qui dirigent le village, qui soient dans les... et qui prennent des responsabilités communales. La même chose dans les États. Il ne faut pas avoir peur de prendre des responsabilités. Ce n'est pas là à faire de la mauvaise politique, ce n'est pas là à faire de la politique de parti, c'est tout simplement chercher le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne social de notre Seigneur. Alors nous devons prier pour cela et encourager tous ceux de nos amis que nous connaissons, toutes nos connaissances, qui sont capables de prendre des mandats dans les communes, dans les cités, dans l'État, de se présenter. Et puisque désormais nous avons vu une initiative qui a été provoquée par de nos amis, et que ce petit journal qui a dernièrement paru et qui s'appelle Controverse, dans lequel nos confrères prêtres aussi se sont engagés d'une certaine manière, eh bien c'est là, à mon avis, une très bonne initiative qui peut éventuellement servir au moment d'un vote pour être distribué dans les familles, partout, pour encourager à faire un bon vote, le vote pour notre Seigneur Jésus-Christ, sans faire de parti spéciaux, mais qu'il soit, comme le dit Saint Pie X, le parti de Dieu, le parti de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là ce que, me semble, cette fête du Christ-Roi nous rappelle et nous demande d'agir courageusement. Comme le disait Jeanne d'Arc, n'est-ce pas, dans son combat, nous combattons, nous prions et Dieu donnera la victoire. On dit, oh, c'est impossible, on ne pourra pas, c'est trop difficile. Jamais nous n'arriverons à dominer les gens qui actuellement dirigent nos pays, et tout ça. Nous n'arriverons jamais à les renverser. Mais il faut compter sur la grâce du bon Dieu. Le bon Dieu est avec nous, le bon Dieu veut régner, le bon Dieu veut le bien des âmes. Et par conséquent, si les catholiques s'unissent, prient, font des sacrifices et militent en faveur du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut compter sur la grâce de notre Seigneur, sur l'aide de la très sainte Vierge Marie, qui est forte comme une armée rangée en bataille, sur l'aide des saints, de Saint Michel Archange, de tous les saints du pays, de Saint Nicolas de Flux, ici, de Saint Maurice, invoquons-les et demandons-leur de nous aider pour que notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos pays, pour sauver les âmes des générations futures, sauver nos âmes et sauver l'âme des générations futures, et rendre nos pays sous le doux règne, remettre nos pays sous le doux règne de notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.